sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est le moment de notre rendez-vous quotidien sur Europe 1 avec la grande, la passionnante aventure humaine. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, ravi de vous retrouver.
Merci.
Bonjour à tous. Alors vous revenez juste à temps Julia pour piloter l'émission la plus inattendue, je pense, que nous ayons conçue à ce jour. Une émission autour du mystérieux Descartes.
Eh ben écoutez, vous m'envoyez ravi. Vous me disiez en fait avant de prendre l'antenne que depuis 50 ans, plus de 4500 livres dans le monde ont été consacrés à Descartes et à son œuvre. Et pourtant, il faut dire qu'on parle rarement de ce grand penseur.
Oui, c'est vrai. Et c'était déjà la même chose de son vivant. Les écrits de René Descartes faisaient grand bruit, évidemment, mais lui menait une vie très discrète, retirée, pour ne pas dire secrète, en marge de la société. Nous allons essayer aujourd'hui de percer un peu le mystère de cet homme à l'intelligence hors norme, et pour nous montrer fidèle aux conceptions du philosophe, nous évoquerons sa postérité sous deux angles, celui du corps, de la matière, puisque nous allons suivre le parcours insensé de son squelette à travers les siècles, et puis celui de la conscience, de l'âme, en vous faisant toucher du doigt l'importance dans l'histoire de la pensée de la révolution cartésienne.
Alors c'est le moment ou jamais de nous envoyer vos questions, chers auditeurs, vos réflexions aussi sur le site d'Europe 1 via Facebook, sur la page de l'émission. Où commence notre histoire? En quelle année aujourd'hui, Franck?
Alors ça commence en Scandinavie, au beau milieu du grand siècle. Et si vous voulez que je sois plus précis,
peut-être, ça va nous
aider. En Suède, à Stockholm, au creux de l'hiver 1650.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Il fait un froid de gueux à Stockholm, en ce petit matin du 1er février 1650. Et comme il n'est que 6 heures du matin, il fait encore nuit noire, évidemment. Il y a une épaisse couche de glace sur la chaussée entre le palais royal où réside la reine Christine de Suède et la demeure, la résidence de Monsieur Chanu, ambassadeur de France, qui héberge en ce moment même René Descartes. Et comme chaque matin, à 5 heures précises, le célèbre penseur est venu au palais pour donner sa leçon privée de philosophie, sa leçon quotidienne à la jeune souveraine, elle a 24 ans. Et puis, il a pris congé au bout d'une heure et, transi de froid, le voilà qui s'empresse de regagner ses pénates dans l'ambassade de France. Descartes a toujours eu peur du froid, ça a été son ennemi toute sa vie. Du reste, il a toujours manifesté une santé assez fragile. Et ce matin, tandis qu'un vent glacial parcourt les rues encore obscures de Stockholm, eh bien il a beau s'emmitoufler dans un manteau de fourrure épaisse, il grelotte et il maudit le Grand Nord. Il est très probable qu'à ce moment-là, René Descartes ait regretté d'avoir finalement cédé aux injonctions de la reine Christine. Il est venu s'installer à Stockholm à sa demande. Lui qui, depuis tant d'années, vivait tranquillement aux Pays-Bas. On appelait ça à l'époque les Provinces Unies. Quel besoin a-t-il eu d'accepter cette invitation à Stockholm, invitation relayée par l'ambassadeur de France auprès de Christine, Chanu, qui s'est fait très pressant, qui a vraiment demandé instamment à Descartes d'accepter l'invitation royale. Sans doute est-ce que le philosophe a vu dans cette ouverture la possibilité de gagner à sa cause une cour puissante et respectée, car à cette époque, Descartes fait déjà l'objet d'attaques vraiment multiples venant d'un peu partout en Europe. D'où sans doute cette acceptation, d'où cette contrainte, ces levées matinaux, d'où le froid, d'où les regrets. D'où aussi les nouveaux ennemis qu'il s'est fait en suscitant un flot de jalousie parmi les savants et les érudits de la cour de Suède. Sa relation avec Christine, relation qui d'emblée s'est présentée sous un jour éminemment privilégié, ne peut naturellement que susciter autour de lui un grand nombre d'envieux. Le voilà qui rentre donc à l'ambassade, ça fait du bien, il y a les grands poêles qui entretiennent une chaleur relative. Il a bu un bouillon presque brûlant. Il a passé un moment dans sa chambre et puis il s'est rendu au chevet de son hôte, l'ambassadeur Chanu, qui est atteint à ce moment-là d'une pneumonie et qui passe son temps à tousser, à cracher, c'est assez pénible. C'est après une heure, peut-être une heure et demie passée à ses côtés, à essayer de le distraire par une conversation relevée, il n'a que ce genre de conversation, René Descartes, que le philosophe s'est senti parcouru de grands frissons. Des frissons qui sont constamment revenus et bientôt se sont accompagnés de maux de tête, de nausées. René Descartes est monté se reposer un moment. Il a tenté de reprendre sa correspondance, mais il avait les yeux brûlants, l'estomac noué. Il s'est senti pris de vertige. Il a commencé par se coucher. Il est resté alité tout l'après-midi. Et le lendemain, 2 février, jour de la Chandeleur, il a dû renoncer à se rendre auprès de la reine. Il n'a pas pu se lever, comme chaque jour, à 4 heures du matin. Il est descendu simplement un peu plus tard pour la messe dans la chapelle de l'ambassadeur. Il a communié des mains de l'aumônier de l'ambassade, le père catholique François Vioguet, qui est de l'ordre des Augustins. Et puis, il est remonté se coucher. Et à partir de là, il ne se relèvera plus jamais.
La danse macabre composée par Camille Saint-Saëns.
On se demande encore pourquoi la danse macabre, mais vous allez voir bientôt, vous allez comprendre. Quand la reine Christine apprend que Descartes, malade, a dû s'aliter et qu'il ne pourra pas venir lui donner son cours, elle envoie immédiatement, elle est de bonne nature, Christine, elle envoie à son chevet son médecin personnel, Van Vullen. C'est une attention royale. C'est aussi faire preuve d'une royale indifférence, parce qu'en vérité, Van Vullen, depuis déjà 2 longs mois, est devenu le pire ennemi de Descartes. Il est à la tête des envieux dont je vous parlais il y a un moment. On peut dire que le philosophe français ne voit pas entrer le médecin suédois avec plaisir. Il le laisse néanmoins l'ausculter, mais il se gardera bien de suivre la moindre de ses prescriptions. Il a peut-être eu tort après tout. Les fièvres ne font que s'accroître, la douleur. Au bout de 3 jours, Descartes se met à délirer et en 10 jours, il est emporté. René Descartes, le plus grand penseur de son siècle assurément, est mort le jeudi 11 février de cet an de grâce 1650. De quoi est-il mort ? Oh, d'un coup de froid, aggravé par l'épuisement, c'est en tout cas ce à quoi concluent tous ses biographes. Tout de même, dans les jours suivants, vont circuler certaines rumeurs d'empoisonnement. Après tout, s'il n'avait eu qu'un coup de froid, pourquoi ses maux d'estomac ? Pourquoi ses saignements ? Pourquoi le sang dans ses urines ? Tout ça ressemble à des symptômes d'empoisonnement et même précisément d'empoisonnement à l'arsenic. Seulement, bien entendu, ces rumeurs-là n'auront aucun écho officiel. Il va falloir attendre très longtemps. On a parlé d'empoisonnement à la fin du 19e siècle, au début, je me rappelle notamment le docteur Cabanès parlait de ça, c'est des vieux souvenirs d'enfance. Bon, mais il faut attendre, en tout cas 1996, pour que l'allemand Heike Pies développe dans un livre à grand succès la thèse de l'empoisonnement de René Descartes. Et 13 ans plus tard, en 2009, il y a donc pas très longtemps, le professeur de philo allemand Theodor Ebert va reprendre cette enquête à son tour et il accumule toutes sortes de doutes, de suspicions. Selon lui, il est évident que Descartes aurait été tué par l'aumônier Vioguet lui-même, qui redoutait, semble-t-il, enfin d'après M. Ebert, qui redoutait l'impact de la pensée cartésienne supposée favorable aux protestants sur l'esprit de la jeune reine Christine. Pour aller jusqu'à cette conclusion, il me semble quand même, pour dire que Descartes a été bel et bien assassiné, il faut faire preuve d'une certaine subjectivité, voire même d'une crédulité que vous me permettrez de qualifier d'assez peu cartésienne. Ce qui en revanche est intéressant dans ces soupçons d'empoisonnement, c'est qu'ils mettent en lumière les enjeux politiques et stratégiques qui au XVIIe siècle s'attachent directement au débat philosophique et on devrait dire accessoirement théologique. Selon R. Ebert, si l'entourage de Christine de Suède, respectueux de la vieille scolastique héritée d'Aristote, si cet entourage, si cette cour en voulait à mort à Descartes, c'est qu'ils accusaient, je cite, « cette nouvelle manière de philosopher de conduire droit au scepticisme, à l'enthousiasme, à l'athéisme et à la frénésie ». Vous me permettrez, en humble cartésien que je suis, de douter de tous ces arguments. Une chose est certaine par contre. En 1654, 4 ans après la mort de son maître à penser français, Christine de Suède va se convertir au catholicisme.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire vous propose aujourd'hui sur Europe 1 une émission consacrée autour du mystérieux philosophe Descartes.
Eh oui, Descartes. Alors je me suis demandé, Julia, pour tout vous dire, si je devais dans cette émission consacrer une part à la biographie de Descartes. Mm-hmm. Parce qu'après tout, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est sa postérité, évidemment, et puis bien entendu, ce qu'est devenu aussi son corps. Vous allez voir que ça, c'est assez rocambolesque. Mais moi qui suis quand même un grand familier du XVIIe siècle, je dois vous avouer que je ne connaissais pas bien en tout cas cette biographie de Descartes, et je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal de replacer un peu les choses. Alors, sachez donc que notre homme est né, vous savez, en Touraine, à la Haye Descartes, hein, ça c'est, enfin, le nom de Descartes est venu par la suite, évidemment, en 1596, au printemps 1596. Il était le troisième enfant d'un conseiller au Parlement de Rennes, donc bonne famille, hein, on est dans la magistrature, dans la petite noblesse de robe. Du reste, du côté maternel, sa mère, Jeanne Brochard, était elle-même la petite fille d'un important magistrat de Poitiers. Décidément, je vais réussir l'exploit de citer Poitiers quasiment dans chaque émission.
Oui, quasiment tous les jours, en fait.
Je ne sais pas pourquoi, finalement. Sa mère est morte en donnant naissance à un petit frère un an après sa naissance. Et il va bénéficier, grâce à ses origines familiales, dès sa jeunesse, de 6000 livres de rente, ce qui est pas mal du tout. Ce qui permet, en tout cas, de vivre confortablement et sans travailler. Il n'aura jamais besoin d'exercer un métier, Descartes. Ça aide, ça, lorsqu'on fait profession de penser, de réfléchir, de méditer, de s'interroger sur le monde. Il faut savoir qu'en tout cas, s'interroger, il l'a toujours fait. Du reste, son père l'appelait mon petit philosophe, car il posait constamment toutes sortes de questions sur tout ce qu'il voyait. Il avait cette espèce de curiosité qui n'a fait que s'accroître, se développer au collège des jésuites de La Flèche, où il entre en 1606. Il faut dire qu'il a un de ses oncles qui enseigne là dans ce collège. Donc tout ça, vous voyez, il est dans un bain qui lui reste, et celui des grandes études de l'époque, hein, les humanités classiques. On commence à étudier dans la dernière partie du cursus, on étudie la philosophie scolastique, donc tout ce qui vient d'Aristote, évidemment, tout cet empirisme néo-médiéval en quelque sorte. Descartes, en ce qui le concerne, va très vite manifester une certaine réticence à l'égard de tout ce corpus. Il a horreur de tout ce qui n'est pas clair, net, de tout ce qui n'est pas certain. « Je me plaisais, dira-t-il dans le discours de la méthode, en parlant de son enfance, je me plaisais surtout aux mathématiques à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison. » Tout est dit. Quelle lumière, quasiment même dans ces termes empruntés au Descartes, empruntés au grand siècle. Sitôt que l'âge, précise Descartes, me permit de sortir de la suggestion de mes précepteurs, je quittai entièrement l'étude des lettres, et me résolvant de ne plus chercher d'autres sciences que celles qui se pourraient trouver en moi-même ou bien dans le grand livre du monde. J'employai le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions. Ça, c'est un aspect, alors en ce qui me concerne, je l'ignorais totalement, c'est un grand voyageur, c'est une espèce de globe-trotteur dans son enfant, enfin dans sa jeunesse, lorsqu'il a 22, 23, 24 ans Descartes. Et du reste, il est soldat, hein, il entre dans les troupes du duc Maximilien de Bavière en 1619, donc il a 22, 23 ans. Si vous voulez, il avance, c'est sa devise, vous savez, l'arwatus prodeo, j'avance masqué. Quand on dit qu'il avance masqué, ce ne sont pas ses idées qu'il masque, c'est le fond même d'une personnalité qui s'adonne aux sciences, à la réflexion, à l'étude du monde, alors même qu'il passe pour, je ne dirais pas un soudard, parce qu'il ne participe pas directement à la guerre de 30 ans, mais enfin tout de même, voyez, il a une vie qui, vue de l'extérieur, paraîtrait presque normale. Le 10 novembre 1619, voilà la date de la vie de Descartes. Il a ses songes, vous savez, ses rêves extraordinaires. Il fait une série de rêves dans la même nuit. Et il a une sorte de révélation qui lui dit qu'il est destiné en quelque sorte à unifier tous les savoirs de son temps dans une science admirable dont il serait l'inventeur. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle une vocation. Et même si on le voit encore, on le voit se battre, hein, notamment lorsqu'il rentre d'Allemagne en Hollande, il y a des mariniers qui essaient de le dépouiller, et là il donne de l'épée quand même, hein. c'est pas totalement un pur esprit, mais néanmoins il va essayer d'unifier les mathématiques, l'astronomie, l'optique, les fameuses lois d'optique de Descartes, hein, ça va commencer par là. Il fait de temps en temps néanmoins des séjours en France, je passe un peu vite, hein, sur tout ça. Descartes revient à Paris notamment, à plusieurs reprises. Là il rencontre entre autres le cardinal de Bérulle, qui est le fondateur de l'oratoire, et qui va reconnaître en quelque sorte la dimension, l'amplitude d'esprit de ce Descartes. Il l'adjure de publier le plus vite possible sa philosophie. Il faut que Descartes fasse profiter autrui des réflexions auxquelles il est déjà parvenu. Alors, bien sûr, tout ça va dans le sens de l'ambition de René Descartes, fonder une métaphysique sur une méthode aussi irréfutable que celle que l'on peut constater dans l'étude des mathématiques. Simplement, Descartes est quelqu'un d'assez réservé, je vous l'ai dit, d'assez discret. Il a surtout un grand besoin d'isolement, de solitude. Oh, comme je le reconnais entre nous. Je ferme rapidement cette parenthèse personnelle. Il a en effet une espèce de passion de l'étude et de la tranquillité. Et c'est la raison qui va le conduire plus qu'autre chose vers la Hollande. Si on le retrouve à Leyde, à Deventer, à Utrecht, à Amsterdam évidemment, c'est moins pour fuir une police royale française, notamment police des idées à travers la Sorbonne, etc., extrêmement dure, que probablement pour s'isoler et pour se... C'est en tout cas ce qui ressort de sa correspondance. Il vit là-bas, hein, en Hollande, aux Provinces-Unies, une vie extrêmement, extrêmement sage. On lui connaît certes une aventure sentimentale, mais une, hein, avec Hélène Jans, qui était la servante d'un libraire d'Amsterdam. Et d'ailleurs, elle va avoir une fille, elle va lui donner une fille qui naît le 19 juillet 1635. Elle s'appelle Francine, la petite. Elle mourra de fièvre éruptive dès septembre 1645. 40. Ça, c'est une des grandes douleurs de la vie de Descartes. À un moment, c'est le début des années 40, où il est secoué par la mort de son père, par la condamnation de Galilée. Galilée qui, quand même, avait choisi le système de Copernic, ce qui, cet héliocentrisme fondamental pour Descartes. Et Galilée est condamné, ce qui ne va qu'accroître son goût pour le secret, pour la discrétion. Ça ne l'empêchera pas de publier évidemment le discours de la méthode, qui au départ est une préface. Ses méditations, bien entendu, en 1647, dans la traduction française, elle s'était publiée les méditations en latin, dans la traduction du duc de Luynes. Nous reviendrons sur tout cela dans la deuxième partie de l'émission. Nous essaierons de voir ce que Descartes a apporté à la pensée, ce qu'il nous apporte finalement à nous aujourd'hui.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Et nous évoquons aujourd'hui sur Europe 1 Descartes mort à Stockholm en 1650, Franck.
Oui, alors justement, 16 ans après la mort de René Descartes, le 1er mai 1666, les fossoyeurs rouvrent sa tombe. Le cercueil est sorti de terre, il est placé sur une charrette qui prend le chemin de l'ambassade de France. En effet, le nouvel ambassadeur, Hugues de Terlon, a été missionné par la cour de France, autant dire par Louis XIV lui-même, en vue de rapatrier la dépouille du grand philosophe. Il a obtenu toutes les autorisations nécessaires sur place, il a donc fait procéder à l'exhumation, il a organisé tout un roulement de gardes militaires autour du cercueil installé dans la chapelle de l'ambassade, et puis il a évidemment fait ouvrir ce cercueil, et constatant que le corps était en état très avancé de décomposition, eh bien il a décidé le transfert des restes dans une boîte de cuivre qui mesurait seulement 80 de nos centimètres. Donc c'était plus un cercueil, évidemment c'était plus facile, c'était plus discret en quelque sorte à transporter. Au passage, après avoir demandé la bénédiction des autorités catholiques locales, Terlon a prélevé, semble-t-il, pour lui-même, un petit os, c'était l'index droit du philosophe, je cite Terlon, qui avait servi d'instrument aux écrits immortels du défunt, dit-il. Vous commencez à comprendre, d'ores et déjà, en 1666, les restes de Descartes font l'objet d'un véritable culte. Elles sont devenues en quelque sorte des reliques, laïques certes, mais reliques néanmoins. C'est donc l'urne en cuivre que Terlon emporte avec lui sur un navire qui quitte Stockholm en juin 1666 pour gagner le port de Copenhague. De là, alors à travers le Jutland, la Basse-Saxe, les Flandres, deux hommes missionnés par l'ambassadeur vont conduire les restes de Descartes jusqu'à Péronne, donc en terre française, et puis de là, à partir de Péronne, jusqu'à Paris, où tout le petit convoi n'arrive qu'en janvier 1667. Les restes sont déposés chez Pierre d'Alibert, trésorier général de France et grand lecteur de Descartes. Vous imaginez l'effervescence dans les milieux cartésiens de Paris, parce qu'il y a vraiment des mordus, si je puis dire. Ils sont très actifs déjà, ces fidèles à la mémoire du grand homme. Tous ces gens se réunissent un soir de juin, 1667 donc, à l'église Saint-Paul, sur la rive droite. Elle n'a pas changé, cette église-là. Enfin, quand je dis qu'elle n'a pas changé, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, elle n'a pas beaucoup changé, devrais-je dire. C'est là qu'en effet, depuis quelques mois, donc depuis leur arrivée en janvier, se tenaient les restes de Descartes. Reposaient, devrais-je dire, les restes de Descartes. Et toute la petite troupe va accompagner la bière jusqu'à Sainte-Geneviève-du-Mont sur la rive gauche. Sur ordre de Louis XIV, le sermon funèbre ne sera prononcé qu'en privé devant les personnes invitées à la cérémonie, alors qu'au départ on avait prévu un sermon public. On se méfie toujours, dès qu'il est question d'idées, dès qu'il est question de philosophie, le pouvoir royal jette un œil inquiet. Grande cérémonie néanmoins, scènes édifiantes, réinhumation dans une tombe enfin digne de Descartes. On peut dire que, cette fois, Descartes a trouvé une sépulture chrétienne en terre française. Il est là, en plein cœur de Paris. L'histoire pourrait s'arrêter là. Eh bien, en vérité, je vais vous faire une révélation. L'histoire en question, elle ne fait que commencer. C'est un historien et journaliste new-yorkais. Il s'appelle Russell Shorto, qui s'est passionné pour le destin inouï des ossements du grand philosophe. Il en a tiré un livre haletant qui s'appelle « Le squelette de Descartes » qui a été publié chez Télémaque. Et dans cet ouvrage qui fourmille de détails et d'anecdotes, Shorto nous apprend qu'en 1792, on est donc au moment où la révolution bascule, c'est le moment où la monarchie devient république, la vieille église Sainte-Geneviève, il y en avait une toute nouvelle, la nouvelle église construite par Louis XV, par Soufflot, et qui va devenir le Panthéon. La vieille église est détruite, et avec elle sont détruites les tombes prestigieuses qu'elle abrite, et évidemment celle de Descartes. Alors le curé de la paroisse, qui ne sait pas quoi faire pour sauver ce qui peut l'être des vestiges de son église, fait appel à un personnage incroyable auquel d'ailleurs nous consacrerons un de ces jours une émission entière parce que ça mérite vraiment, c'est le futur fondateur du musée des monuments français, l'érudit Alexandre Lenoir. Je suis certain que certains de nos auditeurs se disent ça, il nous l'a déjà promis et il n'a pas tenu sa promesse. Mais je vous promets qu'un jour on le fera. Or, chose très étonnante, le rapport de Lenoir ne mentionne pas la tombe et les restes de Descartes. Et pourtant, plus tard, Lenoir affirmera avoir bien déterré le philosophe et rapporté la fameuse urne chez lui où il aurait transféré les ossements dans un sarcophage antique, un sarcophage de porphyre, qui du reste sera dûment répertorié dans le catalogue de son musée. Il est à noter quand même que ces ossements sont privés d'un élément important tout de même quand on parle de philosophie, puisqu'il n'y a pas là, parmi les os de Descartes, manque le crâne du philosophe.
La danse macabre de Camille Saint-Saëns qui ressurgit sur
Europe 1. Oui, et là, je pense que c'était le bon moment. Vous voyez, c'est
je confirme.
On est bientôt donc sous le directoire en plein débat de l'Assemblée sur l'entrée possible au Panthéon d'un certain nombre de grands personnages, dont Descartes évidemment. Seulement, les députés ne sont pas d'accord sur son cas, on sursoit. Et finalement, en 1819, donc après le consulat, l'Empire, etc., restauration des Bourbons, et sous Louis XVIII donc, a lieu une nouvelle inhumation de Descartes, ou de ce qu'il en reste, cette fois à l'église Saint-Germain-des-Prés. 2 ans plus tard, rebondissement étonnant, le chimiste suédois Berzelius, qui avait assisté à cette troisième inhumation de Descartes quelques temps plus tôt, tombe tout à fait par hasard dans un journal sur l'entrefilet suivant. Lors de la vente aux enchères survenue après la mort du professeur Sparman, le crâne du célèbre Descartes a été vendu. On dit qu'il a été acquis pour 16 ou 17 rix d'aller. Alors évidemment, le chimiste suédois prend contact avec l'étude. On lui dit que l'acheteur est le propriétaire d'un casino qui s'appelle Arngren. Il le rencontre, il le convainc de lui revendre le crâne et il envoie le crâne au grand chimiste français Berthollet qui le dépose immédiatement au secrétariat de l'Académie des sciences et une Académie des sciences qui à l'époque est sous le secrétariat perpétuel du grand anatomiste Georges Cuvier. Ça tombe bien. Voilà comment Cuvier se retrouve, si je puis dire, en possession du crâne de Descartes. Ce crâne est couvert d'inscriptions, dont celle-ci en suédois. Inscription assez nombreuse, hein, complexe, mais en suédois, il est dit qu'il s'agit bel et bien du crâne de Descartes pris par J.F.R. Planström l'an 1666, lorsqu'on devait renvoyer le corps en France. Vous voyez qu'il voyage énormément, ce crâne. Que va-t-il devenir? Où est-il aujourd'hui? Eh bien, nous verrons ça avec la personne en charge de le conserver et avec également un philosophe qui nous ouvrira l'esprit. Le crâne, si vous voulez, sur Descartes.
Franck Ferrand sur Europe 1. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et on vous retrouve, Franck, avec vos invités aujourd'hui. Philippe Mensier, qui est chargé de conservation de la collection d'anthropologie du Muséum d'histoire naturelle, qui abrite, entre autres, le crâne de Descartes. Également avec nous, le philosophe et écrivain Vincent Cespedes.
Quand vous dites entre autres, oui, il y a quelques autres ossements au Muséum national d'histoire naturelle. Nous allons y revenir. Nous avons un troisième invité par procuration, en quelque sorte, Julia, qui est Russell Shorto. Comme il est américain, new-yorkais, c'était pas très facile, évidemment, de l'avoir ici. Sauf avoir un traducteur, c'est tout de suite compliqué. Son livre s'appelle Le squelette de Descartes, c'est aux éditions Télémaque. Alors, je vous disais, pour suivre l'enquête de Shorto, que le crâne de Descartes, en tout cas la partie supérieure du crâne, pour être tout à fait exact, s'était retrouvé sur le bureau de Cuvier, ce qui ne manque pas de sel, évidemment, le grand anatomiste Cuvier. Et puis, alors, il y a à l'époque un débat très vif à l'Académie des sciences, puisque certains prétendent que ça n'est pas vraiment le crâne de Descartes, etc. On n'a pas d'ADN à l'époque. Et ce que dit Cuvier, qui est plein de bon sens, il invoque le principe de la parcimonie en science, c'est-à-dire qu'il dit que il est plus compliqué d'imaginer une falsification de ce crâne que d'admettre son authenticité. Depuis, cette authenticité a d'ailleurs été admise. Ce que nous révèle le livre à rebondissement de Russell Shorto, c'est que le crâne de Descartes refait surface en 1912, lors d'une séance de l'Académie des sciences, justement, où des questions sont posées, parce qu'on a publié en Suède la correspondance entre Berzelius, le découvreur du crâne, et Berthollet, et on retrouve cette histoire, on dit « mais où est-il le crâne ?» Alors on le retrouve en 1910, ça fait énormément de bruit et la question se pose dès cette époque de sa destination. Quoi faire de ce crâne? Faut-il le réinhumer avec le reste des ossements en l'église Saint-Germain-des-Prés? Faut-il le transférer au Panthéon? Faut-il l'envoyer là-bas sur place dans sa commune de La Haye en Touraine? La question reste ouverte et aujourd'hui, on peut dire que certains continuent d'ailleurs à se la poser très clairement. On a, alors vous nous l'avez dit Julia, le crâne de Descartes se trouve effectivement au Muséum National d'Histoire Naturelle et nous avons pour nous en parler Philippe Mensier qui est chargé de conservation de la collection d'anthropologie de ce muséum. Alors vous, j'imagine Philippe Mensier, que vous l'avez découvert le crâne, évidemment, vous l'avez vu, je veux dire, vous en êtes familier.
Bah oui, on le voit quand on veut. En fait, il fait partie des collections depuis les débuts du muséum, puisqu'il a été remis par Berzelius, enfin par intermédiaire, mais directement à Cuvier. On possède également des lettres de Berzelius à Cuvier, qui fait toute l'historique de cette trouvaille, on peut dire. Et donc, depuis, il est au Muséum d'Histoire Naturelle.
Alors, ce crâne, nous l'avons nous sous les yeux parce qu'il est en photo sur la couverture du livre de Shorto. C'est la partie supérieure du crâne, hein, c'est bien ça.
Ouais, c'est le crâne sans la mâchoire.
Sans la mâchoire inférieure, oui. Exactement. Mmh. Il est assez parcheminé dans son aspect. C'est pour qu'on puisse le visualiser, qu'on voit à quoi il ressemble. Il est couvert de petites inscriptions, dont la plupart sont du reste en suédois. Il y en a en latin également.
Oui, il y a un poème en latin. Et puis, il y a les noms plus ou moins effacés de tous les propriétaires successifs du crâne. Il est passé de main en main avant d'être vendu à Lancan et à Stockholm.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce crâne, aujourd'hui, est encore un enjeu quasiment politique, ou en tout cas éthique ? On sait qu'un certain nombre de personnes aimeraient le voir intégrer le Panthéon. On sait que d'autres, c'était le cas de François Fillon en 1996, c'est-à-dire au moment du 4e centenaire de la naissance de Descartes, il voulait qu'on rapatrie le crâne à la haie Descartes. Vous tenez à le conserver, ce crâne ?
La République fait ce qu'elle veut, hein, moi. Et je pense que Descartes n'est pas arrivé par hasard au muséum. Il a été remis par Berzelius, qui était membre correspondant de l'Académie des sciences à Cuvier.
Donc, il a toute sa place, finalement.
On est des gens issus du siècle des Lumières. Et c'est au moment où la Convention vient de décréter que le Muséum national d'histoire naturelle était à la disposition du peuple français. Donc, c'est pas par hasard le crâne de Descartes, à mon avis, qui se retrouve dans un des temples de la science, en fait.
Pour préciser d'un point de vue très matériel les choses, le crâne est au musée de l'Homme, donc d'habitude place du Trocadéro, au musée de l'Homme, mais le musée de l'Homme fait partie du Muséum national d'histoire naturelle, et donc pendant les travaux, il se trouve physiquement en ce moment au Jardin des Plantes.
Oui, il est revenu au Jardin des Plantes, parce qu'avant la constitution du musée de l'Homme en 36, en 38, il était au Jardin des Plantes.
Pourquoi continue-t-on à se passionner comme ça pour ce qui est quasiment des reliques ? On se moque finalement, vous savez, des trafics des reliques médiévales, mais on voit que les reliques d'un certain nombre de personnalités beaucoup plus modernes continuent de faire l'objet d'un très grand enjeu. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer, dans les minutes qui viennent, d'éclairer un peu la pensée cartésienne, de voir quel est notre héritage aujourd'hui, ce que nous devons à Descartes.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand j'aurai du verre sur mes os, peut-être qu'on croira que je ricane, mais ça sera une impression fausse, car il me manquera mon élément plastique, plastique, tic, tic, qu'auront bouffé les rats, ma paire de bidules, mes mollets, mes rotules, mes cuisses, mon cul, sur quoi je m'asseyois. Mes cheveux, mes fils.
Parole Boris Vian, musique Serge Gainsbourg. On reconnaît d'ailleurs les interprétations. Serge Reggiani, quand j'aurai du vent dans mon crâne.
Oui, c'est tout à fait. Finalement, c'est une émission en forme de vanité aujourd'hui qui convient très bien au XVIIe siècle. Nous avons comme objet tutélaire ce crâne de Descartes, ce crâne d'où est sorti tant de révolutions, tant de vents philosophiques, si je puis dire. Est-ce qu'on peut dire, Vincent Cespedes, vous qui êtes philosophe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant Descartes et un après Descartes ?
Oui, bien sûr. D'abord, Descartes critique la scolastique de son temps, vous l'avez dit, et donc il est moderne dans sa forme. Il sort du latin, il essaie de parler un peu à tout le monde, tous les personnes érudites, et il a vraiment ce mélange du savant fou, un peu. On le voit à Amsterdam faire de la vivisection. Oui. Il habite le quartier des Bouchers.
Les Bouchers,
donc,
bien, oui.
Voilà, donc il s'intéresse, il met les mains dans le cambouis, comme on dit, ou dans la chair, dans la pâte. Donc il y va, quoi. Il va au carton. Et puis à la fois, c'est vrai que c'est l'image même du penseur solitaire, retiré, qui a cette volonté de totaliser le savoir. Mais frénétiquement, je comprends l'accusation de frénésie de l'époque, c'est-à-dire qu'il était passionné par cette idée d'unifier le savoir, et qu'il y a quand même l'idée de la philosophie, être ardemment épris par le savoir, au point d'ailleurs de délirer dans toutes ces études scientifiques sur la météorologie, sur l'optique, tout ça, il y a des vrais délires. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent l'esprit cartésien, c'est rationnel, ordonné, etc.
Oui,
ça n'empêche pas le...
On a fini par réifier, par dessécher en quelque sorte la pensée de Descartes. Nous la présentons aujourd'hui d'une façon scolaire, lointaine, un peu médiatique aussi parfois. On dit cartésien, tout ce qui est un peu sec, peu matérialiste et qui manque en quelque sorte de souffle spirituel est taxé de cartésien. C'est quand même presque un contresens.
C'est
finalement
un contresens parce que Descartes fonde quand même tout sur Dieu. Les vérités éternelles sont créées par Dieu et au bout du compte, il en revient à l'idée d'un principe suprême. Mais surtout, on fétichise Descartes comme on fétichise son crâne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'université, d'ailleurs, souvent, il y a des groupes dans les réseaux sociaux qui sont anti-Descartes parce que les élèves de philosophie en ont marre de manger du Descartes le matin, le midi et le soir.
Il n'y a pas que dans les réseaux sociaux. Voilà. Je ne vous lis pas tous les messages que nous avons au standard, enfin, sur Internet, mais certains sont carrément injurieux pour notre grand philosophe. Il n'est pas très aimé, j'ai l'impression, en tout cas par certains auditeurs.
Alors, il n'est pas très aimé pour ce côté fétichisant. C'est vrai que dans toutes les dissertes de philo, il faut avoir sa petite partie sur Descartes, ce qui est regrettable. Mais surtout parce qu'il caractérise l'Occident. Descartes, c'est l'Occident. C'est la pensée occidentale. Quand Descartes lance le mot d'ordre « Maintenant les scientifiques, les savants, unissons-nous tous pour se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », nous avons le projet de ce qu'a été l'Occident jusqu'au XXe siècle. Il y a que en notre début de siècle qu'on commence à se dire que peut-être qu'il y a des impasses dans ce projet-là, qui était un très beau projet. Ça a permis la médecine expérimentale, ça a permis de prendre la nature comme un matériau sur lequel nous pouvons exercer notre intelligence et se rendre maître. Enfin, Descartes dit comme maître, parce que le vrai maître, c'est évidemment Dieu pour lui.
Donc, il ne faut pas se mettre à la place du véritable maître.
Vous savez, Descartes a influencé son temps exactement comme Freud. Tous les philosophes français du XXe siècle ont dû se situer par rapport à Freud. Tous les philosophes du XVIIe, du XVIIIe jusqu'au XIXe ont dû se situer. Pascal, Leibniz,
toutes les grandes philosophies, Kant, Leibniz, etc. C'est par rapport à Descartes.
Exactement. Il avait une correspondance incroyable avec tous les plus grands savants de son temps. Et il a inspiré des penseurs modernes comme Edmond Husserl ou comme Noam Chomsky. On ne le sait pas trop, mais Noam Chomsky part de Descartes, le linguiste qui maintenant fait des conférences sur la géopolitique, etc. Et est un grand, grand lecteur de Descartes. Donc Descartes est très fécond, intellectuellement très fertile, très séminal, on dirait en anglais. Séminal parce qu'il féconde l'esprit. Son aventure est une aventure intellectuelle très, très épique. C'est pour ça qu'encore il est très respecté. Même si c'est vrai qu'il faut arriver aujourd'hui à des nuances, parce que se rendre comme maître et possesseur de la nature, eh ben, on le voit au Japon aujourd'hui, c'est très difficile et ça mène à des impasses.
Et l'image, l'univers, la vision qu'on se faisait du monde et de l'univers au temps de Descartes était évidemment beaucoup plus simple que celle que nous pouvons avoir nous aujourd'hui avec tous les progrès de toutes les sciences.
Exactement. Mais ça n'empêche pas d'assister à l'éclosion d'une pensée qui, quand elle est en but avec de l'inconnu, essaie d'imaginer.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une pensée macro, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il voit les objets de l'extérieur et en grande échelle.
Oui, complètement. Alors, ils fondent un principe dont on a pu être un peu malade par la suite, c'est quand même la séparation de l'âme et du corps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se curer un peu de cette pensée-là.
Mais ça, c'est Saint-Augustin, déjà, finalement.
Oui, on a, mais là, lui, il radicalise vraiment, vraiment les choses. Or, aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, regardez, Descartes dit « je pense, donc je suis », première vérité, c'est quand même presque une sorte de tautologie aujourd'hui, tellement c'est radoté. Mais aujourd'hui, nous pensons Descartes et donc Descartes demeure. Voilà une pensée qui sort un peu de cette fétichisation quand même du corps.
Je ne veux pas caricaturer littéraire d'un côté, scientifique de l'autre, scientisme d'un côté, spiritualité de l'autre. Mais enfin, est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques occidentaux qui mènent le monde, disons-le, se reconnaissent encore en Descartes?
On ne peut que se reconnaître de Descartes dans la mesure où il nous donne une méthode qui est appliquée aujourd'hui par la science entière. Décomposer les difficultés, essayer de voir les éléments de simplicité pour après les recomposer, ça s'appelle faire une dissertation. Nous sommes tous des élèves du discours de la méthode, que ce soit en mathématiques, avec l'utilisation des lettres, etc., mais surtout que ce soit dans l'organisation des idées, l'organisation rationnelle des idées, on la doit vraiment à Descartes.
Est-ce que c'était le cas de Cuvier, Philippe Mencier, et au-delà, est-ce que c'est aujourd'hui le cas des scientifiques qui travaillent, par exemple, dans vos services au Muséum National? Est-ce que vous reconnaissez une sorte de filiation vis-à-vis de Descartes?
Moi, je pense que oui, le Muséum d'Histoire Naturelle, il est directement issu justement du siècle des Lumières et de la Révolution. Et que Descartes, si on peut dire, cette relique a sa place au Muséum. Maintenant, si elle doit aller au Panthéon, c'est une autre histoire.
Saint Descartes, priez pour nous. Nous allons revenir sur un certain nombre d'aspects biographiques du personnage dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 14h30 sur Europe 1, on s'intéresse à la pensée, à l'héritage du philosophe Descartes, Franck.
Je parlais de Poitiers tout à l'heure, des Poitevins me font remarquer que Descartes a étudié à l'université de Poitiers également, bien entendu. Et puis c'est Marc qui me fait constater une erreur. J'ai dit qu'il était mort le jeudi 11 février 1650, il semblerait que ce jour-là ait été en réalité un vendredi. Mais j'ai jamais été très bon, moi, en arithmétique. Pour
merci
le coup,
de votre activité, en tout cas.
Oui, hein. Non, mais c'est bien de le faire remarquer. Là, j'ai compté plus 10 et j'ai dit c'était donc un jeudi. Mais non, effectivement, c'était un vendredi, le jour de la mort de Descartes. Alors, sans revenir sur la biographie même du personnage, mais c'est intéressant quand même de voir qu'il était, c'était un voyageur, c'était un, ça a été un aventurier dans son enfance, enfin dans sa jeunesse en tout cas. C'était quelqu'un qui ouvrait l'œil à la façon de Léonard, hein, Paul Occhio, qui était constamment à l'écoute du monde et de l'univers.
Oui, puis à l'écoute de lui-même, il est aussi dans l'introspection. Descartes, c'est celui qui prend le jeu personnel et qui raconte sa vie et qui narre un peu les méandres de son esprit, qui s'interroge sur lui-même. C'est ça qui est assez passionnant, c'est une sorte de héros de la pensée moderne.
Est-ce qu'on peut dire aussi que Descartes avait des idées un peu arrêtées sur,
certes.
Je pense par exemple sur les animaux, puisque pour lui l'animal est une machine, c'est ça?
Oui, c'est un ordinateur sophistiqué, c'est un automate, voilà. C'est un automate.
Donc pas de sensibilité, pas de pensée, rien.
Pas de sensibilité, pas de pensée. C'est une sensibilité peut-être, mais en tout cas certainement
pas. Matérielle,
voilà,
en tout cas,
exactement,
oui.
Mécanique. Parce que la sensibilité pour Descartes, c'est aussi très
c'est
mécanique.
Ça, bien sûr, oui.
Mais c'est vrai que les animaux, les écologistes haïssent Descartes. C'est intéressant d'ailleurs de voir que Descartes est utile aujourd'hui. Il est même très réhabilité dans le débat, comme étant l'anti-écolo par excellence.
Un repoussoir, quasiment.
Un repoussoir, c'est-à-dire que voilà, une pensée cartésienne poussée à son extrême, c'est les animaux, on peut les utiliser. On peut utiliser la nature en général parce qu'elle est là au service de l'homme. L'homme est au centre.
Puisque Philippe Mensier parlait tout à l'heure de l'esprit des Lumières, un certain nombre des philosophes des Lumières, je pense à Diderot évidemment, Voltaire accepte quand même une grande partie de l'héritage de Descartes, mais en rejetant justement cet aspect mécaniste.
Oui, on est avec les Lumières dans quelque chose d'un peu plus romantique déjà, pré-romantique déjà. C'est-à-dire
qu'on parlera de Buffon d'ailleurs un de ces jours,
bien
je
sûr.
Signale aux auditeurs que ça va intéresser.
Donc bien sûr, il a été très critiqué pour ses idées, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il répondait aux critiques, et ça c'est assez passionnant. L'œuvre de Descartes est faite aussi des objections et des réponses aux objections, et donc il était tout le temps dans le dialogue, c'est ça qu'on peut lui reconnaître. C'est pas quelqu'un du tout de buté, d'arrêté, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup charmé Christine, la reine Christine, c'est qu'il était dans une dialectique et tout à fait prêt à se laisser convaincre par des opinions extérieures. C'était pas du tout quelqu'un de borné, au contraire, ouvert d'esprit. Ce que je retiens de lui, c'est une gourmandise insatiable de la connaissance, et c'est pour moi la définition de la philosophie.
La soif du savoir.
Oui, exactement.
Descartes. Alors, vous avez employé le terme son œuvre à plusieurs reprises, mais moi, j'ai quand même accompli l'exploit de passer presque une heure entière sur Descartes sans citer ses œuvres. Alors, il faut le faire quand même. Quelle est la grande œuvre ou les grandes œuvres, on va dire,
bon,
de Descartes?
On a le discours de la méthode.
Alors, ça, c'est une préface au départ, c'est
oui,
ça?
Oui, bien sûr, mais elle est très, très didactique,
oui,
si vous
voilà.
Voulez. C'est très bien. On a les méditations
1637,
métaphysiques.
1637, donc, décidément, grande année. C'est l'année du Cid aussi. Hein.
Tout à fait. On a les méditations métaphysiques qui, elles, ont vraiment inspiré énormément de philosophes, dont Husserl, qui lui reprend le mot en disant les méditations cartésiennes. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, avec, faut aussi dire que Descartes se permet de jouer. Il joue, c'est pas simplement un logicien froid et glacial. Par exemple, il invente l'hypothèse du malin génie. Je doute. Bon, jusqu'où je peux douter? Est-ce que je peux douter que nous sommes là en train de discuter dans un studio de radio? Eh bien oui, parce que je peux douter, je peux imaginer qu'un malin génie me trompe, et comme dans un rêve, quand on ne sait pas si on rêve ou on est dans la réalité éveillée, eh ben on peut imaginer. Donc, il invente des fictions pour aussi travailler sa pensée. Ça, c'est ce qu'on a perdu vraiment en philosophie, ce rapport au jeu, au ludique, pour valider ses pensées. Donc voilà, ce sont les deux grands ouvrages, à mon avis, de Descartes. Après, il y a beaucoup de discussions, toute
les
la
traités,
correspondance,
voilà,
les traités et puis les ouvrages scientifiques.
Et une correspondance, quand vous dites correspondance, fondamentale, parce qu'avec tous les, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quasiment tous les grands penseurs de son temps.
Bien sûr, bien sûr.
Un homme qui se veut mathématicien, scientifique, il aurait été peut-être surpris qu'on le considère, nous, comme un philosophe, finalement.
Oui, mais la philosophie, pour lui, c'était ce qui couronnait les sciences.
C'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'une démarche scientifique.
C'est l'idée de la philosophie première, la philosophie de la métaphysique. Et donc, en ce sens, il est assez aristotélicien. Il y a vraiment l'idée, et je pense que c'est dommage de perdre ça en philosophie.
Oh, oui.
Il faut que la philosophie, à mon avis, revienne avec ce projet de Descartes de, oui, bien sûr, on ne sait pas le cosmos, l'infini, l'univers. Donc, soyons très, très au point, peut-être un peu spécialisés, sur ce qui se fait en science aujourd'hui, pour essayer d'imaginer des rencontres transdisciplinaires interdisciplinaire entre les sciences. Ça, c'est rester fidèle à l'esprit de Descartes.
Sa passion pour les sciences, évidemment, le poussait à s'informer de ce qui se faisait en astrophysique, si j'ose cet anachronisme. Oui. Il était très intéressé par Copernic, évidemment, par Galilée. La condamnation de Galilée a été un choc.
En 1633, Galilée est condamné. Et du coup, il va dire, bon, maintenant, il faut faire attention, mes idées sur l'homme, tout ce qui peut déranger, je vais quand même les dévoiler parce que j'ai une honnêteté intellectuelle, mais peut-être moins ouvertement, moins de façon conquérante. Et c'est vrai qu'il était en connexion avec tout ça, avec les débats de son temps. Et d'ailleurs, il voulait lui-même faire sa révolution copernicienne, c'est-à-dire dans le monde des idées, appliquer le procédé mathématique pour essayer de démontrer des choses qui dépassent un peu pour l'instant l'observation, notre entendement, parler de la liberté, de l'homme, de Dieu, etc.
Si seulement, et je ne doute pas que ce sera le cas, car on vous écouterait des heures, Vincent Cespedes, si seulement on avait pu donner envie à certains de nos auditeurs de se replonger dans Descartes, personnage un peu trop oublié, en tout cas du public non philosophique, si je puis dire. L'homme expliqué aux femmes, c'est votre dernier ouvrage en date chez Flammarion. Si vous expliquez aussi bien l'homme aux femmes que vous nous avez expliqué Descartes, ça doit être passionnant. Russell Shorteau, Le squelette de Descartes, c'est donc chez Télémaque. C'est cette espèce d'enquête, alors très à l'américaine, il y a un peu à boire et à manger, il y a tout là-dedans, mais c'est passionnant. Vous ne pourrez pas refermer le livre quand vous l'aurez ouvert. C'est donc l'enquête sur le crâne de Descartes. Ce crâne de Descartes dont Philippe Mensier est un des conservateurs. Merci beaucoup d'être venu nous assurer qu'il était toujours sous bonne garde. Alors je suis pris là d'un doute
qui
n'est pas cartésien, mais oui. J'aimerais savoir si c'est bien la vraie Faustine Bollard qui est à côté de moi. Est-ce que je peux vous toucher, Faustine ?
Allez, écoutez, je n'attends que ça. Vous n'avez toujours pas compris, Franck ?
Oui, c'est bien elle.
Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser. On va décrypter vos comportements vestimentaires. Vous ne portez que du noir. Vous n'arrivez pas à vous séparer de cette vieille chemise pourtant râpée. Vous n'avez aucun style. Vous allez voir que nos habitudes vestimentaires en disent long de nous, de nos personnalités, de nos humeurs. Nos vêtements, d'ailleurs, peuvent-ils influencer nos humeurs ? Nos parents, y sont-ils pour quelque chose dans notre façon de nous habiller ? On va en parler tous ensemble. Alors venez nous parler de ces vêtements que vous ne jetteriez pour rien au monde. Est-ce que vos parents vous habillaient avec des robes à smokes ou des pantalons en tweed ? Quel est votre style aujourd'hui ? Justement, par rapport à ça, on en parle au 39-21. Vous pouvez également nous joindre en nous écrivant faustine.europe1.fr. On va analyser notamment le style de Franck Ferrand.
Voilà, et je pense que ce sera la partie, le point fort de cette émission.
Merci Faustine. En toute humilité. À demain Franck.